Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est une passion qui enflamme les foules depuis un siècle et qui va déferler sur la France à partir du 10 juin, la passion du football. L'Euro 2016 a beau intervenir dans un climat particulier, alourdi bien sûr par la menace terroriste et l'état d'urgence, on entendra sans doute d'un stade à l'autre les mêmes rugissements de joie ou de désespoir, et partout, le drapeau brandi à bout de bras, symbole d'une identité, emblème de chaque nation qui, dans les replis de la mondialisation, trouve sur le terrain, entre les poteaux, un ultime refuge. Football et géopolitique, performance et des émotions, jamais les enjeux financiers des compétitions n'ont été aussi élevés, jamais les organisations qui y président ont été aussi puissantes et controversées, jamais les États et surtout les nouveaux venus d'Asie et du Moyen-Orient n'ont dépensé autant de moyens pour faire du football et du sport en général la vitrine de leurs ambitions. Dans cette escalade à laquelle nous assistons, faut-il voir, jusqu'où faut-il voir le jeu de la politique, sinon de la corruption? Jusqu'où le pouvoir financier régit-il les organisations internationales? Le football est-il encore un ressort du nationalisme et un outil au service des États? C'est ce que nous allons voir avec vous, Paul Dieschi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au Centre d'Histoire de Sciences Po, professeur à l'Université de Franche-Comté. Vladimir Andreev, merci d'être avec nous. Vous êtes à Nîmes, économiste, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Patrick Mignon, sociologue, vous avez publié plusieurs ouvrages et plusieurs études sur le football. Et en direct avec nous de Rome, je l'en remercie, Gigi Riva, rédacteur en chef de l'hebdomadaire L'Espresso en Italie, passionné de football, grand reporter depuis 25 ans. Gigi, vous avez en particulier couvert la guerre des Balkans dans les années 90. Et on va voir tout à l'heure quelle est la corrélation entre le football et Sarajevo. Paul Dieschi, je commence avec vous pour comprendre cette espèce d'escalade à laquelle on assiste en fait depuis les années 80, me semble-t-il. Escalade des enjeux financiers, escalade aussi des compétitions, escalade des organisations qui les mettent en place. Donc l'Euro 2016, ça c'est l'UEFA.
Alors l'UEFA, c'est ce qu'on appelle une confédération continentale. Ça réunit environ 53 fédérations européennes. Et ça a été créé dans le contexte de la construction européenne dans les années 50 pour défendre au sein de la FIFA les intérêts de ces fédérations européennes.
Mais la FIFA étant l'organisation internationale.
Voilà, qui a été créée à Paris en 1904. L'UEFA, au départ, est une sorte de lobby qui doit faire face à l'arrivée de nouveaux pays au sein de la FIFA, notamment asiatiques et africains. Mais très vite, ça devient une sorte de machine à cash. Pour quelle raison? C'est que l'UEFA se voit soit confier des compétitions, soit les créer elles-mêmes, des compétitions européennes. Les plus célèbres sont la Coupe des clubs champions, aujourd'hui Champions League, la Coupe Henri Delaunay, aujourd'hui Euro, et qui deviennent de véritables trésors de guerre, surtout dans les années 1990-2000.
Trésors de guerre, pourquoi? Parce que les droits payés par les télévisions n'ont cessé d'augmenter?
Oui, il y a une rupture à la fin des années 70-80. Jusque-là, le monde du football est assez méfiant à l'égard de la télévision parce qu'il pense que la télévision fait fuir les spectateurs dans les stades. Or, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. Et surtout, à partir des années 80-90, vous avez des groupes de télévision privés. Le groupe Mediaset, par exemple, en Italie, puis Canal Plus en France, le groupe de Robert Murdoch, BSkyB, qui investissent dans le football et qui investissent des sommes de plus en plus conséquentes. Et
d'autant c'est ce que souvent, ils sont aussi propriétaires des clubs. Enfin, je pense à Berlusconi.
C'est le cas de l'AC Milan. Bon, pour Canal Plus, c'est le Paris Saint-Germain, évidemment. Jean-Luc Lagardère avait tenté le coup avec le Matra Racing. Donc, il y a évidemment une interconnexion de ces intérêts. Mais ce sont des interventions qui font flamber les droits télé. Pour vous donner une idée, entre 1998 et 2002, les droits de la Coupe du Monde de football sont multipliés par 10. Donc il y a évidemment
Et ça, c'était, comment le qualifier, le génie financier de M. Blatter, à la tête de la FIFA, qui depuis a eu... comment dire, quelques démêlés.
Alors, ce génie...
et qui a quitté la présidence
oui.
de la FIFA.
Ça commence d'abord avec un Brésilien, João Avelange, qui devient président de la FIFA en 1974, qui comprend à la fois l'intérêt de la télévision, dans un contexte quand même de télévision publique, et aussi l'intérêt de s'associer à de grandes compagnies multinationales, Coca-Cola, Adidas. Et Sepp Blatter, qui est élu à la tête de la FIFA en 1998, bénéficie d'une sorte d'effet d'opportunité. Il arrive au moment où les droits télé explosent, et c'est vrai que la FIFA, à partir du début des années 2000, devient une entreprise très prospère, avec 250-300 salariés, quand elle était une sorte de PME auparavant, avec des droits télé qui ne font qu'augmenter, finalement.
Et il y a plus de membres à la FIFA à l'ONU.
Oui.
Comment est-ce possible ?
Alors c'est possible parce que il y a eu un règlement qui permettait à des États, enfin des territoires autonomes, qui recevaient l'autorisation de leur État de devenir membres. Par exemple, Tahiti fait partie de la FIFA.
Alors que Tahiti. Alors ça permet de démultiplier les votes. Enfin les.
Alors au départ, c'est plutôt des, disons, des solutions visant à faciliter la pratique du football. L'équipe de Tahiti, par exemple, joue dans une confédération qui s'appelle l'OFC, donc c'est la confédération de l'Océanie. Donc évidemment, il est beaucoup plus facile pour les joueurs de Tahiti de jouer dans cet environnement-là. Donc au départ, c'est cela. Ensuite, évidemment, ça émiette les voix au sein de la FIFA.
Donc la FIFA, c'est la FIFA qui organise la Coupe du Monde. Donc c'était le Brésil en 2014. On a vu que les retombées économiques ont fini par créer une certaine instabilité politique, parce qu'on peut dire que la crise que traverse le Brésil actuellement est en partie liée aux scandales divers et variés qui ont entaché aussi bien la présidence de Lula que celle de la dame qui lui a succédé. C'est la Russie qui doit obtenir, organiser cette Coupe du Monde en 2018 et le Qatar en 2022, par un climat qui n'est pas vraiment tempéré. Donc on a quand même l'impression qu'à chaque fois, et s'agissant surtout de la Russie et du Qatar, voilà, ce sont des attributions où les mérites sportifs ne sont pas nécessairement les plus importants.
Alors, disons qu'on peut voir ça de deux manières. Si on prend la logique, on peut dire séculaire désormais, de la FIFA, parmi les buts de la FIFA, c'est de développer le football international. Donc, il y a une logique à aller faire disputer les Coupes du Monde dans des pays qui ne l'ont jamais accueilli. C'est ce qui s'est passé en 1994 aux États-Unis, en 2002 au Japon et en Corée. La Russie a toute sa légitimité en tant que pays de football. Pour, évidemment, le Qatar, c'est un petit peu différent. Mais organiser une Coupe du Monde au Moyen-Orient, ça n'a rien d'illégitime. En revanche, évidemment, ce sont les conditions d'attribution qui posent problème, à savoir comment, évidemment, au sein du comité exécutif de la FIFA, on a réuni suffisamment de voix pour donner notamment la Coupe du Monde au Qatar. Donc il me semble que le problème se pose de manière différente. Il y a le développement du football et puis il y a la manière dont les choses sont faites.
Vladimir Andreev, je rappelle que vous êtes économiste et donc vous avez une approche complémentaire de celle de Paul Yeschi. On voit avec Paul Yeschi la manière dont les organisations UEFA, FIFA se sont développées, dont ce développement s'est accéléré depuis une vingtaine d'années. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui se passe du côté des joueurs depuis ce fameux arrêt Bosman, donc un joueur belge qui protestait contre son club qui était le FC Liège, ça je m'en souviens. Et ça c'était en 1995 et il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne. Expliquez-nous
exact,
ça.
Exact. Oui, ce joueur voulait changer de club et ça lui a été interdit. Il a donc plaidé la libre circulation au sein de l'Union européenne et donc il a eu gain de cause et ceci abolit toute forme de restriction dans la mobilité des joueurs de football au départ, puis dans d'autres sports ensuite. Il y a une jurisprudence Bosman qui s'est étendue et la conséquence de tout cela, c'est qu'il y a un marché mondial, si l'on reste au football, un marché mondial des joueurs de football. Pratiquement dans tous les pays du monde, les joueurs peuvent bouger. Il y a encore quelques exceptions dans quelques pays, mais tous les pays africains, tous les pays moyen-orientaux ont suivi cette cette jurisprudence Bosman. Donc il y a vraiment un marché mondial du football, ce qui a des conséquences intéressantes pour un économiste. Les équipes de clubs anglaises ne sont pas anglaises, et l'équipe nationale du Qatar n'est pas qatari.
Il n'y a pas un seul joueur qatari dans l'équipe du Qatar.
Alors, je ne vous jurerai pas qu'il n'y en a pas un sur le banc de touche. Mais dans le cas de l'équipe de handball, qui a eu une très belle performance en finale mondiale, je crois qu'il y avait un joueur qatarien qui rentrait sur le terrain. Tous les autres étaient français, croates ou je ne sais quoi.
Donc ça veut dire
c'est pareil dans le football. Et c'est pareil dans le football. L'équipe du Qatar est composée principalement de Brésiliens, de Marocains et de quelques autres Africains.
Donc on a affaire à des équipes transnationales qui sont censées néanmoins incarner la fierté nationale.
C'est là qu'il y a un vrai problème, pas au niveau des clubs, que Manchester United joue avec 11 non-anglais sur le terrain, ne pose aucun problème, c'est du business privé, point la ligne. Par contre, en effet, le paradoxe que vous soulevez, c'est que nous avons des équipes nationales dans lesquelles les joueurs qui jouent ont officiellement la nationalité du pays, c'est-à-dire les Qatariens, enfin les étrangers qui jouent dans les équipes qatariennes ont un passeport qatarien. Sauf que moi j'étais invité une fois à une table ronde à Lausanne, au CIO, parce que c'est un problème. Le Qatar délivre les passeports en une durée de 15 jours. Si vous êtes un sportif de haut niveau, vous devenez qatarien en 15 jours.
Mais aussi, ils ont une habitude parfois de garder les passeports. On se souvient de la mésaventure d'un footballeur français, je crois, qui ne pouvait pas partir.
Tout à fait. Je suis allé une fois au Qatar. On m'a pris mon passeport le temps de mon séjour. On me l'a rendu avant d'aller à l'aéroport.
Oui. Alors, l'équipe de France, on a créé des binationaux, si j'ai bien compris.
Oui, alors il y a aussi des binationaux ou des gens qui atteignent la nationalité française par des voies parfaitement légales, telles que on se marie avec un Français ou une Française, et il y a d'autres voies légales pour devenir soit national, soit binational. Je crois que la dernière équipe olympique française avait 27 participants, athlètes, qui n'étaient pas nés en France ou originaires de France.
Patrick Mignon, vous êtes sociologue. Cette relation singulière qui existe entre les supporters et les joueurs dans des compétitions internationales, quand on voit, encore une fois, la manière dont ces équipes sont diversifiées sur le plan de leurs origines, de leurs passeports, etc. Comment est-ce que la fièvre nationale s'incarne malgré tout à travers un maillot?
Alors que la situation est un petit peu différente selon les pays, parce que si on prend le cas de l'Europe, par exemple, il est certain qu'en France, la France, pays d'immigration très ancien, présente depuis très très longtemps des équipes qui ont été composées avec des joueurs qui étaient d'origine marocaine, qui étaient polonais, et aujourd'hui on a effectivement cette situation d'une importance très très grande prise par des joueurs qui sont issus des vagues de l'immigration africaine, nord-africaine, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La situation est un petit peu différente dans d'autres pays où... absence, si on veut, d'immigration, les équipes sont beaucoup plus homogènes du point de vue national. Je pense que par exemple dans les pays de l'Est, il y a assez peu actuellement de joueurs sont par exemple d'origine africaine, alors que dans les championnats en Russie ou en Pologne ou en Roumanie, on aura des joueurs d'origine africaine qui jouent dans le championnat. Donc là, pour les rencontres de pays de nations, les problématiques sont un petit peu différentes selon les pays. Mais on voit bien que la question, par exemple pour le cas de la France, est assez intéressante, parce que l'équipe de France, du coup, devient un objet d'interrogation, parce que la présence très très forte de jeunes footballeurs issus de l'immigration va poser la question de leur loyauté vis-à-vis du maillot,
et on voit bien que... Et de la Marseillaise, etc.
Et donc on voit bien les polémiques après l'Afrique du Sud, les polémiques à partir du moment où les résultats sont pas très bons, l'attitude de certains joueurs vis-à-vis de l'équipe de France et de rapport à leur club. Tous ces éléments-là vont effectivement jouer dans, disons là, une sorte de suspicion sur l'équipe. Alors, accentué, je pense, en France, parce que le football n'est pas en France, enfin le sport de façon générale, la France n'est pas une nation sportive au sens où on dirait que l'Angleterre est une nation sportive, c'est-à-dire où il y a une implication assez générale des citoyens vis-à-vis du sport en général.
La France, pourtant en France, on a l'impression qu'on ne parle que de foot,
c'est intéressant parce que
sur le foot.
Les statistiques sur l'intérêt manifesté en France pour le football font qu'en fait on va considérer qu'un peu moins de la moitié de la population est intéressé par le football. Mmh. L'autre moitié n'est pas intéressée. Quand on fait des sondages, et justement lorsqu'on pose ces questions d'identité nationale en rapport avec l'équipe de France de football, on n'interroge pas uniquement les gens qui s'intéressent au foot, on interroge tout le monde. Ce qui fait qu'en fait le football en France est un objet autant sportif qu'un objet politique, et un objet politique qui renvoie, qui pose d'autres types de questions, parce qu'effectivement, il va intéressé et impliqué en termes de qu'est-ce que l'équipe de France de football, des personnes qui par ailleurs sont complètement indifférentes au football.
Et en Angleterre, c'est tout autre chose.
En Angleterre, c'est un petit peu différent. L'Angleterre, c'est la patrie du football. Je pense qu'en Angleterre, on pourrait dire qu'à peu près, femmes comprises, une grande partie de la population anglaise suit le championnat anglais, suit l'équipe nationale. Et de ce point de vue-là, la ferveur pour l'équipe nationale a quelque chose de beaucoup plus unitaire. En même temps, là encore, l'Angleterre permet de rebondir sur cette question, parce que l'Angleterre est aussi un pays dans lequel, l'Angleterre, pas la Grande-Bretagne, dans lequel certaines équipes ont des caractéristiques très nationales, non anglaises. Je prends le cas, par exemple, des équipes de Liverpool, qui sont des équipes qui ont traditionnellement, historiquement, des origines irlandaises. Ce qui veut dire qu'être supporter de Liverpool n'implique pas un report de l'intérêt pour le football, pour l'équipe nationale. Et ce sera plutôt un report sur l'équipe d'Irlande, qui sera dans les compétitions. Donc après, tous les pays vont être un peu marqués par cet équilibre qu'il y aura, ou deux équilibres, comme on voudra, entre d'un côté l'intérêt pour le football hebdomadaire, ce sont les clubs. Alors là, vous avez des problématiques campanilistes en Italie, régionalistes en Espagne, etc. Et l'équipe nationale qui va arriver à un moment donné, et là, disons, du coup, mobiliser ou pas la totalité du corps social.
Gigi Riva, vous êtes à Rome, vous dirigez l'hebdomadaire L'Espresso et vous êtes passionné à la fois par le football et par les Balkans. Vous avez couvert à l'époque les guerres yougoslaves, l'explosion de la Yougoslavie, et vous signez au Seuil un livre très intéressant qui s'appelle « Le dernier pénalty » et où vous expliquez, je résume bien sûr, mais qu'en gros la Yougoslavie, la fédération yougoslave a explosé par la faute d'un joueur bosniaque à qui tous ses concitoyens et tous les nouveaux ex-Yougoslaves, c'est-à-dire les Croates, les Slovènes, etc., continuent de lui reprocher. Il a raté un pénalty, c'était à Florence. Racontez-nous cette histoire parce qu'elle est très symptomatique de ce que peut être, de ce qu'a pu être, en tout cas dans ce cas précis, le nationalisme à un moment particulièrement fragile d'une histoire faussement nationale.
Alors, j'ai raconté cette histoire parce que je la trouve emblématique du rapport entre le sport, et en particulier le football, et le pouvoir en général. Et en ce sens-là, je pense que c'est une histoire qui est intéressante même aujourd'hui. Et la question, c'est très simple. Si vous voulez, commence en France quand j'ai rencontré Farouk Hadžibegić, qui est le nom du joueur bosniaque. Je l'ai rencontré à Strasbourg lorsque j'ai présenté un précédent livre que j'ai écrit en France qui s'appelle J'accuse l'ONU. C'était le 94 et il jouait à ce temps-là à Sochaux. Il est venu à la présentation du livre et en me disant que c'était l'homme qui avait contribué à l'implosion de la Yougoslavie en ratant le pénalty à Florence. Et c'était évidemment une chose énorme, mais c'est évidemment une chose, si vous voulez, fausse. Mais la chose intéressante, c'est que je l'ai rencontré après 20 ans pour écrire le livre, et il m'a dit que quand il retourne au Balkan, ou quand il rencontre quelques habitants des Balkans, ouais, dans le 80% des occasions, il lui dit « mais si tu n'aurais pas raté cette pénalty, peut-être les choses aurait tourné
autrement. Mais en fait, et singulièrement dans votre pays, l'Italie, le football a été utilisé depuis fort longtemps par le pouvoir. On pense à Mussolini en particulier.
Absolument. Mais je dis encore une chose pour la Yougoslavie. Cette équipe était pressée par tous les responsables des différentes républiques et qui ordonnaient à l'entraîneur d'utiliser 7 ou 16 joueurs pour la nationalité. Mmh. Et l'implosion de la Yougoslavie s'est bien représentée de l'implosion de cette équipe de football. C'est vrai que le football, même en Italie, a été utilisé dans le 34 et dans le 38 par Mussolini, qu'il voulait glorifier son pouvoir avec les victoires de la nationale de football au championnat du monde dans le 1934 en Italie et 1938 en France. C'est-à-dire, Mussolini l'avait très compris que le football est un sport si populaire pour véhiculer le message que le pouvoir veut donner à la population.
Et vous rappelez aussi un exemple horrible et totalement contemporain, c'est que Daesh, donc les terroristes de Daesh, ouais, ont assassiné récemment des gens qui regardaient un match de foot, comme si c'était un symbole de l'Occident.
De l'Occident, mais pas seulement ça. Quand Daesh a pris le pouvoir dans une part de la Syrie et de l'Irak, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est d'empêcher aux jeunes de jouer au football. Parce que le football est un symbole de l'Occident. Mmh. Et en plus, cet épisode sanglant, quand quelques djihadistes de Daesh sont entrés dans un club du Real Madrid et ils ont tué 14 personnes. Pour symboliser que la différence entre eux et nous, c'est que nous avons un sport qui nous représente et que c'est quelque chose qui est contre, évidemment, le projet de Daesh de fonder une nation, une culture et surtout de former les jeunes sans des modèles qui sont occidentaux.
Il y a d'ailleurs une très jolie scène dans le film Tombouctou d'Abderrahmane Sissako, ouais, où on voit, ouais, un petit garçon qui s'efforce désespérément de jouer au foot alors que les religieux l'en empêchent. Gigi, cette signification patriotique ou nationaliste du foot, on la voit en Espagne aussi beaucoup,
bien sûr,
avec des équipes qui, si j'ai bien compris, sont aujourd'hui les meilleures du monde, quasiment.
Oui, Barcelone d'un côté et les équipes des Pays Basques de l'autre côté qui utilisent seulement des joueurs basques, par exemple. Tandis que Barcelone, le club de Barcelone de football est devenu, si vous voulez, le symbole de l'indépendance catalane, que part de la population il veut.
Oui, je lisais d'ailleurs, pardon, je vous interromps, ouais, qu'il a fallu une décision de justice pour permettre que le drapeau catalan soit brandi lors de la, ouais, Coupe du Roi. Ouais. Et alors, les joueurs catalans s'arrêtent au bout de 17 minutes, 14 secondes, pour commémorer la date de 1714, qui est la date de l'histoire où la ville de Barcelone, si j'ai bien compris, a été conquise par les Castillans. Donc c'est dire à quel point aujourd'hui encore le football véhicule toute
Absolument.
Cette mémoire.
Absolument. En plus, quand il y a le jour de la dépendance, qui je me rappelle pas mal, c'est le 11 de septembre, dans les dernières années, les joueurs de Barcelone et surtout le vieux entraîneur qui s'appelle Guardiola, il était pratiquement au début des manifestants pour dire « nous sommes pour l'indépendance de la Catalogne ». En plus, le club est devenu une sorte de compétition contre le pouvoir central de Madrid, tandis qu'un des vieux présidents du club de Barcelone a été tué par les franchistes pendant la guerre civile espagnole dans les années 30. C'est-à-dire, même la contraposition entre Barcelone et Real Madrid est devenue une compétition politique beaucoup plus que sportive, même sur le milieu du terrain.
Paul Yeschi, précisément, quand on voit ce qu'est l'histoire du football, qui, si j'ai bien compris, a été inventée par les Anglais, avec des règles qui ont été édictées à Cambridge dans les années 1800...
Les premières règles, c'est en 1863, à Londres.
Voilà.
Mais c'est vrai que ça vient en partie de Cambridge.
Alors, au départ, c'était un sport plutôt d'aristocrates,
La force du football, c'est que il y avait deux traditions. Il y a une tradition des public schools, des aristocrates. Il y a aussi un football qui était plus populaire, qui se jouait à la campagne et en ville. Mais les règles qui ont été dictées en 1863, en fait, très vite, elles ont servi à faire un sport très populaire, notamment parce que les dirigeants de la première fédération anglaise ont accepté la compétition en créant une coupe nationale, ce que n'ont pas voulu les rugbymen. Et à partir du moment où il y a eu cette coupe nationale, des équipes ouvrières, des équipes de bourgeois ont pu se rencontrer, et très vite, finalement, l'enjeu a permis de dégager de l'argent, de payer des joueurs, et à la fin des années 1880, de créer le professionnalisme. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que le football, ça devient le sport emblématique d'hiver du prolétariat britannique, reconnu comme tel, même par la monarchie.
Et c'est comme ça qu'il passe la Manche, avec un premier club en France au Havre, je crois, oui, un premier match international France-Belgique, et de grands industriels qui, au fond, dans la tradition paternaliste de l'époque, encouragent leurs ouvriers à jouer à ce sport.
Oui, les marins, les commerçants britanniques ou les expatriés ont joué un rôle au Havre, en France, à Gênes, en Italie ou ailleurs, et notamment en Amérique du Sud. Donc, ça a permis de créer ces premiers clubs. Mais en même temps, très vite, les Anglais ont été dépossédés de leurs choses, parce que les Français et les Européens en ont voulu faire un mouvement international, ce que ne voulaient pas forcément les Anglais, avec la FIFA en 1904. Et puis ensuite, eh bien, il est certain que l'industrialisation a fortement favorisé le développement du football. Si on prend la ville de Turin, par exemple, les deux clubs se sont développés dans les années 20. La Juventus, lorsque les Agnelli ont pris la tête en 23, et puis, quelques temps plus tard, lorsque l'autre club, Torino, est devenu le club de Cinzano, donc les industriels des apéritifs. Et ça, on retrouve ça dans toute l'Europe, à Sochaux en France, dans la Ruhr en Allemagne. Donc ça a été un temps, mais un temps seulement, aussi le sport de l'industrialisation et des ouvriers.
En Amérique latine et en Amérique du Sud, c'est un sport absolument majeur, mais qui a même provoqué une guerre.
Alors, bon, si c'est un sport majeur en Amérique du Sud, d'abord, c'est que ça a permis quand même de créer une culture nationale en agglomérant finalement des populations où il y avait une forte proportion d'immigrés à la fin du 19e siècle, notamment en Argentine, en Uruguay. Au Brésil, ça a permis d'assimiler en partie la population noire dans les années 30. Alors, pour ce qui est de la guerre du football, on est dans un...
Ça, c'est quoi? C'est Paraguay?
C'est entre le Salvador et le Honduras en 1969, à l'issue de matchs de qualification pour la Coupe du Monde 1970, qui est jouée au Mexique, donc il y a un enjeu sportif qui est fort. Mais disons que c'est le Salvador qui va envahir pendant 100 heures le Honduras. Mais le football, à ce moment-là, est plutôt un prétexte parce que, évidemment, il y a des tensions très fortes entre les deux pays, entre un Salvador surpeuplé et un Honduras qui regorge de terres en partie vierges. Donc là, certainement, le football a été un vecteur, mais il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas le football véritablement qui est à l'origine de ce conflit meurtrier, mais de courte durée.
Le football accompagne aussi la décolonisation. Et c'est d'ailleurs ce que Patrick Mignon rappelait tout à l'heure. Ça explique la composition de plusieurs équipes françaises.
Oui, à la fois. Alors, déjà dans les années 1950, vous avez un championnat de France qui est très métissé, avec des joueurs d'Afrique du Nord, puis d'Afrique noire. Et puis surtout, en Afrique en particulier, le football permet de construire ses identités neuves. Alors, parfois, comme moyen de revendication, par exemple, le FLN crée une équipe nationale entre 1962, composée de joueurs algériens qui quittent leur club français et font des tournées dans les pays arabes, dans les pays socialistes. Et puis, dès que ces pays sont indépendants, ils veulent souvent deux choses, l'adhésion à l'ONU, mais aussi l'adhésion au CIO et à la FIFA, parce que peut-être dans le champ du sport, c'est le lieu où se manifeste davantage et de manière la plus claire la souveraineté. Et puis le temps de 90 minutes, dès les années 60-70, eh bien c'est cette fiction d'État-nation que sont souvent les pays africains, vit au travers de grands joueurs, au travers d'une manière de jouer particulière et de couleurs finalement que ces joueurs permettent d'exposer et de valoriser.
On voit d'ailleurs que la Coupe d'Afrique des Nations suscite des passions absolument...
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ces passions sont toujours très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands leaders africains des années 60-70 se sont affrontés au travers de cette Coupe d'Afrique des Nations. Par exemple, Sékou Touré, Nkrumah au Ghana, Mobutu au Congo, au Zaïre. Donc, il y a eu véritablement des enjeux politiques. Pour l'Égypte, cette Coupe d'Afrique des Nations et la Confédération africaine, ça a été un moyen aussi de faire peser une forme d'hégémonie politique. Et jusqu'à Kadhafi, eh bien, cette coupe a suscité de très nombreux enjeux. Alors aujourd'hui, il y a toujours cette dimension-là. Il y a une dimension aussi commerciale dans laquelle, finalement, d'autres acteurs interviennent, notamment les Chinois qui construisent des stades à tire-larigot dès qu'un pays obtient l'organisation de cette compétition.
Alors justement, cette dimension économique avec de très gros acteurs, à commencer, et nouveaux, des acteurs nouveaux comme la Chine, Vladimir Andreev, cela contribue à l'essor économique prodigieux des organisations du football. La FIFA est devenue une puissance internationale, même si, encore une fois, l'opération de grand nettoyage à laquelle on a assisté depuis plusieurs mois et qui n'est probablement pas totalement terminée, cette opération a quand même, comment dire, nuit à son image.
Ah, certainement, ça nuit à son image. Mais peut-être pour revenir au départ de votre intervention, je rappellerai quand même que ça a été dit, la FIFA a plus de membres que l'ONU, l'UEFA contient 55 membres, c'est-à-dire plus que l'Union européenne ou que l'AELE, etc. Donc ce sont en effet de grandes multinationales ou organisations internationales. Alors j'ai utilisé à dessein le mot multinational parce que ce sont des associations, mais de droit privé. Donc ça ressemble un peu à des firmes, même si ce ne sont pas des firmes. Et quant à leur budget, il est en effet conséquent. La FIFA lève des fonds à l'occasion de chaque Coupe du Monde qui lui permet de vivre assez richement pendant 4 ans et de salarier, comme le rappelait Paul Dietschy, 300 à 400 personnes.
Oui, de les salarier grassement et puis de prévoir, des à-côtés dont on a bien compris qu'ils bénéficient d'une certaine opacité.
Je ne parlais que de l'argent officiel. Oui. En effet, des rumeurs ont couru sur l'attribution de certaines Coupes du Monde. On a fait allusion au Qatar tout à l'heure. Mais si on quitte la FIFA pour aller au CIO, le CIO est de la même façon une grande multinationale qui, pour un économiste, toutes ces organisations ont une caractéristique économique précise. Ce sont des monopoles. Hein. Qui est-ce qui peut offrir dans le monde entier les Jeux Olympiques? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse, le CIO. Qui peut utiliser les anneaux olympiques? Eh bien, seulement ceux qui ont le droit de le faire, ce droit provenant du CIO. Même chose pour la FIFA, c'est un monopole. L'UEFA est un monopole au niveau européen. Et la théorie économique enseigne, je ne vais pas vous en faire ici, la théorie économique enseigne que les monopoles sont des entreprises en général beaucoup plus rentables que celles qui sont soumises à une concurrence effrénée.
Oui, surtout quand elles ont des conseils d'administration particulièrement, poliment complaisants.
Oui. Voilà. Alors non seulement complaisants, je sens que le mot corruption vous brûle les lèvres, donc je vais le prononcer, mais je ne peux pas aller au-delà de la chose jugée.
Oui,
la chose
sûr.
A été jugée de manière tout à fait explicite quant à l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver à la ville de Salt Lake City. Dans ce cas-là, après coup, il s'est avéré, et il a été jugé, au moins par le tribunal sportif, et dans un cas ou deux au moins par les tribunaux civils, qu'il y avait eu de la bribery, c'est-à-dire des pots de vin, c'est-à-dire une forme de corruption, qui a entraîné le CIO à se séparer de 7 de ses membres.
Patrick Mignon, toutes ces affaires de corruption avérées, jugées ou pas, et en tout cas toutes les rumeurs et toutes les réputations, on l'a vu encore avec Michel Platini, toutes les réputations qui sont entachées à travers ces histoires, est-ce que, d'après vous, vous êtes sociologue, vous étudiez les milieux des supporters, est-ce que cela rompt ou est-ce que cela affaiblit le lien entre les supporters et l'univers du football? Ou est-ce qu'au fond, tout le monde s'en fiche?
C'est-à-dire, alors, on s'en fiche pas parce que Je n'en dis pas parce que ça, c'est un élément de conversation important dans le monde du football et des supporters. Non, ce qu'il faut bien voir, le football a cette particularité, c'est que c'est plus qu'un sport. Je crois qu'on l'a compris ce soir. Parce que, à la fois, bien sûr, on a une compétition avec des résultats, mais s'articulent immédiatement sur le football des considérations qui sont des considérations de nature politique. Voilà. Le sens de l'identité nationale, le sens qu'est-ce que c'est qu'être riche, les puissants contre les faibles, etc. Tous ces éléments-là viennent directement se mettre sur le football.
Mais avec une connotation différente, me semble-t-il, en particulier sur l'argent.
Alors, sur l'argent.
Et Dieu sait si en France, il y a un malaise vis-à-vis de l'argent, sauf l'argent des footballeurs.
Si on prend nos deux populations françaises, celles qui s'intéressent au football parce qu'ils aiment le football et ceux qui s'intéressent au football parce que c'est un sujet de conversation et un sujet politique, ceux-là, effectivement, vont considérer que l'argent est scandaleux. Mmh. Si vous mettez du côté des gens qui s'intéressent au football, pour eux, d'une certaine manière, ils ont un peu le raisonnement qu'on a chez les économistes qu'on entend sur les radios, à savoir, finalement, c'est des talents qui sont rares, on se dispute des talents rares, et finalement, le footballeur, profite de cette, c'est un effet d'aubaine, il y a une concurrence, etc. Et chez une partie des gens qui s'intéressent au football, les supporters, ça fait partie des règles du jeu. Voilà. Donc c'est pas, en soi, c'est pas un problème. Même que c'est pas un problème si votre club est le club qui est le plus riche et qu'il a tous les joueurs. Parce que du coup, il écrase d'autres clubs. Parce que chez le supporter, on n'est pas nécessairement quelqu'un qui aime la compétition égale. On est pour gagner contre les autres. Alors, vous voyez, c'est le monde du football est profondément immoral dans sa culture populaire, dans sa culture de supporter. C'est-à-dire qu'il va manier, effectivement, la mauvaise foi, le goût pour la provocation, l'apologie du gain facile, etc. Mais de même qu'on va, par contre, trouver aussi dans cette culture du football des gens qui vont faire de la cause, par exemple, des petits clubs contre des gros clubs, une occasion de se mobiliser, des petites nations. Par exemple, les petites nations sont extrêmement populaires dans les Coupes du Monde. Une petite nation contre une grande nation, une grande partie des gens qui vont regarder le match de football vont être pour la petite nation parce que c'est extrêmement intéressant de voir, par exemple, en Italie, en Coupe du Monde en Angleterre, que la Corée du Nord va sortir l'Italie. Toute option politique mise à part, c'était vraiment le petit qui sort le gros. Et en plus, avec les Italiens qui ont une tremendeuse réputation dans le monde du football. Donc, vous voyez, par exemple, Maradona, la main de Maradona, c'est quelque chose qui fait scandale en termes de morale sportive, mais qui pour les Argentins, premièrement, mais de façon générale, pour les gens qui jouent le football, c'est ça le football.
Le coup de boule de Zidane.
Le coup de boule de Zidane, il a été condamné et puis il a été parfaitement légitimé. D'abord par Chirac, qui a trouvé que c'était tout à fait légitime, mais aussi par j'ai vécu la double réaction à propos du coup de boule de Zidane. Il y avait les éducateurs sportifs, ils étaient à côté, ils disaient, qu'est-ce qu'on va dire à la rentrée? Les autres ont dit c'est normal, il fallait qu'ils réagissent parce que c'était l'honneur, etc. Et d'autres ont dit et d'autres encore qu'on dit pas éducateur et pas non plus parfaitement défendant l'honneur blessé, mais disant mais c'est pas professionnel ce qu'il a fait. Alors, et vous avez lu aussi la presse après les interventions psychanalytiques sur effectivement la façon dont Zidane avait pu gérer sa sortie de carrière à travers ce geste absolument extraordinaire qui consistait à casser finalement l'idole Zidane. C'est ça le football, et je pense que de fait au niveau mondial c'est à peu près le seul sport qui réunit tout ça. Alors après, effectivement, selon les pays, on aura peut-être des variations sur le cyclisme.
Alors passons en Italie. Dieu sait si l'Italie était directement concernée. Gigi Riva, en Italie, on voit aussi à quel point les grandes équipes font l'objet de la compétition entre des industriels ou des grands patrons. On a vu évidemment Berlusconi, oui. Agnelli. Là, il y a ce groupe qui essaie de racheter le Corriere della Sera, qui est Costco, ouais. C'est ça, qui essaie aussi de, qui a aussi acheté un club de foot.
La première chose que je voulais dire, c'est que Materazzi, qui est celui qui a reçu le coup de Zidane, était un héros pour les Italiens. Et c'est devenu une sorte d'héros national parce que, avec ce geste-là, il a empêché à Zidane de tirer le tir au but et l'Italie a gagné. C'est pour dire qu'il y a des mythes qui, même s'il a fait une chose qui n'est pas bonne, qui est mauvaise, il a dit des choses terribles contre la sœur de Zidane, et c'était pas le cas, mais il était comme ça. Et en plus, on peut voir, en continuant la conversation que vous avez fait, ce qui s'est passé, par exemple, entre les supporters de Milan, de l'équipe de Berlusconi. Je connais beaucoup de personnes qui étaient pour l'AC Milan, c'est-à-dire des supporters de gauche, parce que le Milan c'était l'équipe de la populaire de Milan, tandis que l'Inter c'était celui de la bourgeoisie. Mais quand Berlusconi est arrivé, ils ont dit, bon, je suis contre le Berlusconi politicien, mais je veux un président comme lui parce qu'il a l'argent pour faire une équipe forte et qui s'en fout de son idée politique. C'est-à-dire, c'est clair que pour un supporter, c'est beaucoup plus intéressant que l'équipe gagne parce que l'équipe, si vous voulez, c'est devenu pour plusieurs d'eux une valeur importante. Tandis on parle toujours de la chute des valeurs. L'équipe de football, pour une part de la population, en Italie c'est sûrement comme ça, mais je pense que c'est pas différent dans des autres endroits, c'est une valeur. Et les valeurs, c'est une foi, et comme on sait très bien même dans les foi religieuses, une foi, on peut pas être raisonnable contre une foi. Et c'est clair que tout ça, c'est à disposition de ceux qui ont la possibilité économique d'avoir un club et de fidéliser quelqu'un. C'est vrai que la Juventus de Turin est redevenue une grande équipe quand la Fiat, et donc la famille Agnelli, a décidé de donner encore beaucoup d'argent à l'équipe. La Juventus a eu une période qui n'a rien gagné, mais tout le peuple demandait à Agnelli d'intervenir et de mettre de l'argent, et la popularité de Fiat a grossi dans le même moment qui a grossi la popularité, de nouveau la popularité de la Juventus.
Et qu'est-ce qui se passe alors en Angleterre, où on voit que beaucoup d'oligarques russes ou non russes d'ailleurs, je crois qu'il y a un Singapourien, donc ils mettent beaucoup d'argent, ils achètent à la fois un accès au milieu sophistiqué britannique, ils ont une loge dans les plus beaux stades. Est-ce que ce lien de fierté peut passer quand la nationalité du propriétaire est différente?
Absolument, oui. Je connais très bien l'exemple de la Roma, qui a été achetée par un groupe américain. Parce que le problème pour un supporter, c'est pas qui est le patron, mais c'est s'il est quelqu'un qui est disponible à faire quelque chose pour, je ne sais pas comment dire en français, le maillon, la divise du club. Oui. La divise du club, c'est une sorte de bandière. Et n'importe qui porte la bandière, l'important c'est d'être fidèle à la bandière. Roma est un club américain en ce moment. Inter Milan c'est un patron indonésien qui l'a acheté, et quand il l'a acheté tout le monde était content parce que la famille Moratti, c'est-à-dire imprenditeur du pétrole, il n'avait plus l'argent à mettre dans le club, et tout le monde était content, et seulement il commence à discuter sur la nécessité de l'avoir, seulement parce qu'il a dit, bon, j'ai déjà mis trop d'argent dans le club, cette année-ci on commence avec une politique un peu plus de paupérisme pour l'équipe, et alors ils ont commencé à dire, ok, il faut changer le président parce qu'il n'a pas l'argent. Ça c'est l'attitude.
Paul Dieschi, parlons de la Russie, qui est quand même un univers en soi où le football, mais tous les sports, y compris les échecs, sont considérés par Vladimir Poutine comme emblématiques de la fierté nationale et de la reconquête du rang de la Russie dans le monde. S'agissant du football, est-ce qu'on a vu des pratiques singulières dans les clubs russes?
Aujourd'hui, il y a de nombreuses pratiques un petit peu singulières dans ces clubs russes. D'abord, bon, des investisseurs à la fortune un peu douteuse. Également, ces clubs, ce sont quand même des lieux d'exaltation du nationalisme, un nationalisme extrêmement vigoureux. Le championnat russe accueille désormais des joueurs du monde entier, des Brésiliens, des Africains, mais ces joueurs subissent quand même un certain nombre d'avanies. Donc c'est quand même, c'est à la fois un championnat en pleine croissance qui peut attirer de très bons joueurs parce qu'on y est bien payé, mais en même temps un championnat qui reste, qui garde des pratiques un petit peu douteuses. Alors le paradoxe, c'est que je ne sais pas ce que va faire Vladimir Poutine pour 2018, donc pour la prochaine Coupe du Monde, parce que il a visiblement fait en sorte que les athlètes russes gagnent beaucoup de médailles à Sotchi par divers moyens. Les Russes n'ont jamais gagné grand-chose en football, y compris du temps de l'URSS. Ce moment d'exaltation nationale, on va voir s'il l'est. Il faut certainement, pour Vladimir Poutine, la Coupe du Monde 2018 sera un moment où il sera forcé de voir son équipe éliminée assez tôt. Et finalement, d'accepter un événement sportif international uniquement pour ce qu'il est et non pas pour l'exaltation de
l'âme russe. Mais il a poussé quelques-uns de ses amis oligarques, notamment Ousmanov, qui vit à Londres, mais à investir massivement et à recevoir alors en récompense le titre de président de la Fédération
russe
du
disons que ce contrôle, finalement, n'a guère changé. Hein, depuis le temps de l'URSS ou le temps de la Russie, il y a eu un creux dans les années 90 où, finalement, le pouvoir russe est un petit peu désintéressé du sport, parce qu'il y a eu peut-être d'autres problèmes. Et désormais, on est, finalement, dans la configuration d'un régime autoritaire assez classique qui essaie, finalement, de contrôler cette société civile qui est celle du sport et d'en faire un moyen évidemment d'exaltation nationaliste. Alors on peut dire aussi qu'il y a d'autres oligarques comme Abramovitch qui ont choisi de mettre leur argent en Angleterre du côté de Chelsea pour justement éviter l'ire de Poutine.
Mais qui sont aussi encouragés à investir au pays natal. Alors évidemment le sport russe est particulièrement mal en point, depuis que le New York Times a révélé ce système de dopage à une échelle gigantesque lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Et le département américain de la justice s'est empressé d'ouvrir une enquête. Éric Scholl, bonjour, directeur de Courrier International. Et là, vous avez trouvé dans la presse américaine et dans la presse russe de quoi alimenter les gazettes, c'est le cas de le dire.
Ben oui, parce qu'il faut revenir en arrière. Début 2014, ça devait être les JO de la gloire pour la Russie, évidemment pour Vladimir Poutine, qui était le grand architecte de cette compétition d'hiver. Mais ces épreuves de Sotchi sont désormais marquées d'une tache noire. Selon les révélations qui ont été faites sur le site du New York Times le 12 mai dernier, des dizaines d'athlètes russes, dont 15 médaillés, auraient en effet pris part à un programme de dopage. Pire, cette machination aurait été orchestrée par Moscou, et ce, dans le but d'assurer la domination russe sur les Jeux d'hiver. L'objectif a été parfaitement atteint, puisque à l'issue des épreuves, la Russie a terminé en tête du classement avec 33 médailles, dont 13 en or, devant la Norvège, le Canada et les États-Unis. Mais cette suprématie est aujourd'hui donc remise en cause, grâce à ce scoop du New York Times, qui parle même de l'une des manipulations les plus sophistiquées de l'histoire du sport. Le journal disposait, c'est vrai, d'une solide source. C'est l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, Grigory Rodchenkov, aujourd'hui émigré aux États-Unis, qui lui a livré ces informations. Et selon cet expert russe, un cocktail composé de 3 substances illicites mélangées à de l'alcool aurait été administré à des dizaines de sportifs russes. Alors, pour contourner les contrôles, les athlètes ont reçu l'aide des services secrets russes. Leur prélèvement d'urine contenant donc des traces de substances dopantes ont été remplacés par des stocks d'urine propre qui, eux, avaient été récoltés plusieurs mois auparavant.
Alors évidemment, dans la presse russe, on trouve une toute autre histoire.
Eh bien, sans surprise, le quotidien russe Moskovsky Komsomolets a immédiatement répliqué en livrant le point de vue du Kremlin qui parle d'accusations gratuites. Un représentant du ministère des Sports, cité par le journal russe, rappelle que Rodchenkov, donc l'ancien patron du laboratoire antidopage russe, avait été limogé de son poste pour manipulation de prélèvement. Alors, calomnie américaine ou tricherie russe, ce qui est certain, c'est que les dénonciations rapportées par le New York Times ont provoqué des réactions en chaîne à Moscou et à travers le monde. Et parmi celles-ci, je vous livre le point de vue d'un éditorialiste du quotidien allemand Die Tageszeitung. Il parle d'une nouvelle guerre froide du sport. Je le cite, « Après toutes les révélations des dernières semaines, le mal dans le sport est enfin identifié. L'analyse est simple, dans le sombre empire de Vladimir Poutine, le sport de compétition est dominé par un tissu de mensonges et de fraudes. Oui, poursuit le journaliste de la Tageszeitung, on peut voir les choses ainsi, mais qu'en est-il du dopage systématique au Kenya, du système de fraude dans l'équipe des sprinteurs jamaïcains, ou bien encore des dernières révélations d'un médecin britannique selon lequel dans de nombreuses disciplines, les sportifs britanniques sont dopés ? Et le journaliste conclut, dans la guerre froide du sport, la ligne de front est claire.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Paul Dieschi, il est bien entendu qu'aucun athlète français ne pourrait jamais être soupçonné dans quelque sport que ce soit de la moindre pratique illicite. Mais plus sérieusement, est-ce qu'on peut imaginer que les athlètes russes soient interdits des prochains Jeux au Brésil l'été prochain ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui se rencontrent. D'abord, évidemment, c'est appliquer une peine collective à des individus. C'est pas quelque chose qui est conforme à la justice. Pas parce qu'il y a un groupe qui se dope que tous les autres sont dopés. Ensuite, il y a une question diplomatique qui va être évidemment extrêmement importante. Même si la Russie, finalement, n'a pas le même poids que l'Union soviétique. La Russie, certes, pourra être exclue, mais il y aura certainement peu de pays qui vont se solidariser de Poutine. C'est quelque chose qui est possible. Alors, tout dépend, évidemment...
Et ça dépend de qui, alors ? Du nouveau président du CIO ?
Ça dépend très largement, évidemment, du CIO et de ses organes directeurs.
C'est un président allemand, maintenant.
C'est un président allemand qui, visiblement, a la volonté quand même de faire quelque chose, disons, de nouveau de l'olympisme. En plus, il a quand même quelques comptes à régler avec Poutine, parce que les Jeux de Sotchi ont été, malgré tout, des Jeux de l'exaltation du nationalisme et, finalement, assez peu conformes à ce que pourraient être les valeurs de l'olympisme. Je pense qu'il faut attendre pour voir, parce que, comme, finalement, le courrier international et les articles qui étaient cités le disent, eh bien, les Russes ne sont pas les seuls, hein, les Kényans, les Jamaïcains, etc. Ça exclut les grandes puissances de l'athlétisme des Jeux. Ceux-ci perdent une partie de leur intérêt commercial. Donc, il y a aussi, évidemment, les télévisions, les sponsors qui sont importants. Je pense que ça sera quand même, si les Russes sont exclus, ça sera un signe de la part du CIO et de son président de vouloir, finalement, être davantage indépendant des pouvoirs politiques.
Vladimir Andropov, on arrive à intervenir
oui. Dans le débat précédent.
Une question, pardonnez-moi. On voit, et l'exemple des Jeux de Rio le prouve encore une fois, après Sochi, il y a à chaque fois des calculs sur les retombées économiques entraînées par les Jeux, et on voit la compétition féroce que se livrent les villes pour les obtenir.
Oui, absolument. Et ça crée un problème économique, connu en anglais sous le nom de Winner's Curse, la malédiction de celui qui gagne une enchère. Car en effet, les villes ou les pays, selon les grandes compétitions internationales, se font une concurrence qui va jusqu'à la surenchère. Donc ils proposent chacun le projet le plus beau possible, ce qui finit par être le projet le plus coûteux. Mais afin d'obtenir les votes du CIO ou à la FIFA, ils vont masquer en partie ou minorer les coûts en question, et à ce moment-là, quand la ville gagnante de l'enchère ou le pays gagnant va obtenir les Jeux ou la Coupe du Monde, eh bien, ce sont les vrais coûts qui vont se révéler. Ils sont en général et en moyenne deux fois plus élevés que ce qui a été annoncé. Et sur les médailles de
ça, c'est une mise en garde pour les candidatures françaises à venir.
C'est évidemment, dans les fonctions que j'occupe actuellement, un leitmotiv que je répète pour qu'on évite, dans le cadre d'une candidature de Paris 2024, d'annoncer des coûts qui seraient trop minorés et qui se trouveraient dépassés par la suite. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que si on montre des coûts très très faibles, les membres du CIO ont tendance à ne pas voter pour vous. Ils aiment bien les projets les plus beaux, ce qu'ils assimilent souvent aux plus coûteux.
C'est ce qu'on a vu à Londres en particulier.
C'est en effet ce qu'on a vu à Londres. Londres l'a emporté notamment contre Paris avec un coût affiché beaucoup plus élevé, malgré en dépit du fait qu'on avait masqué une partie des coûts en ne tenant pas compte du coût des Paralympiques, de certains coûts de sécurité, ou même on n'avait pas imputé la TVA sur certaines dépenses.
Indépendamment des Jeux Olympiques et pour en revenir au football, puisque je le rappelle, à partir du 10 juin, nous allons nager dans le football avec l'Euro 2016. J'ai lu quelque part, je crois, Monsieur Dieschi, que c'est dans l'un des papiers que vous avez publié, que le grand joueur allemand Beckenbauer avait prédit dès 98 que désormais les Coupes du Monde, donc dans quelques années, c'est-à-dire en gros maintenant, seraient disputées par des clubs économiques autant que sportifs, c'est-à-dire des entités dont le poids compterait davantage en fonction de leurs ressources qu'en fonction du talent de leurs joueurs. Monsieur Androff, vous êtes d'accord avec cette prédiction ?
Ça m'a un peu échappé, là, votre propos.
Alors, je vais demander à Paul Dieschi de commenter, puisque c'est lui qui avait cité Beckenbauer.
Tout à fait. C'est en 98, il disait que, dans le futur, en fait, la Coupe du Monde serait disputée par des équipes représentant des firmes multi et transnationales. Et donc, ce serait l'avenir, finalement. On évacue la nation et on met en place des équipes représentant qui Adidas, qui Nike, qui Renault, etc. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que dans la commercialisation des identités nationales, le nom du fabricant de maillots, de chaussures, de l'équipementier est très important. La Mannschaft en Allemagne est indissociablement liée à Adidas. On ne peut pas imaginer un autre maillot qu'Adidas.
Oui, la visualisation s'impose tout de suite.
Et de même que la finale de la Coupe du Monde 98 a souvent été interprétée comme le match entre Adidas, qui équipait la France, Nike qui équipait le Brésil, et Adidas aurait gagné par 3-0, en quelque sorte. Mm-hmm. Donc c'était un petit peu le propos, finalement, de Beckenbauer. Sauf qu'il faisait un petit peu vite l'économie, finalement, de l'importance du sentiment national et de sa valeur économique.
Patrick Mignon, ce sentiment national va continuer à prévaloir. Est-ce que c'est ce qu'on verra encore à partir du 10 juin dans les stades ?
Écoutez, moi, il me semble voir un petit peu partout dans le monde, en Europe en particulier, que la question nationale, de l'identité, du sentiment national est en quelque sorte à le vent en poupe. Et il n'y a pas tellement de raisons qu'on ne le retrouve pas dans cette Coupe d'Europe. Alors effectivement, on peut la relativiser parce que les nations qui sont en présence sont sur cette question sensible à cette question. Mais
c'est
l'Europe, mais l'Europe c'est déjà un très très beau terrain. Je veux dire, on parlait de la Yougoslavie tout à l'heure. Je veux dire, voilà, elle était en Europe et la Yougoslavie a éclaté. Et aujourd'hui, bon, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe en Slovaquie, ce qui se passe en Hongrie, sont des questions qui nous montrent que, ce qui se passe en France, nous montre qu'effectivement, il y a une montée très très forte sur le national. Alors, est-ce qu'il se traduit en football ? Oui, dans certains pays, c'est clair. En France, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue un petit peu différent. Je suis pas sûr que cette montée se traduise par effectivement un enthousiasme pour l'équipe de France de football, mais on en connaît les raisons, c'est parce que l'équipe de France de football apparaît pas nécessairement comme étant représentative pour justement ces sensibilités nationalistes en France.
On laisse de côté la qualité footballistique sur laquelle je ne saurais me prononcer. Merci à vous tous, merci à vous, Patrick Mignon, sociologue. Vous avez notamment publié La passion du football chez Odile Jacob en 98. Merci à Paul Dieschi, chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous avez publié notamment L'histoire du foot chez Perrin en 2010, avec une réédition en poche en 2014. Vladimir Andreff, vous avez publié notamment « Mondialisation économique du sport », manuel de référence en économie du sport chez The Book en 2012. Et merci bien sûr à notre ami Gigi Riva qui signe le dernier penalty au seuil. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Michel Bernaud, à la préparation comme chaque semaine Meryl Moneghetti. Et vous trouverez bien sûr sur notre site toute la bibliographie nécessaire. Merci à Eric Scholl et à Courrier International. Dans quelques instants, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end.